Merci d'écouter RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et c'est l'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Quel poids pour l'Afrique dans le choix du prochain pape au Vatican? Les cardinaux électeurs se réunissent à partir de cet après-midi pour trouver un successeur à François, un conclave aujourd'hui encore dominé par les Européens, mais qui se diversifie de plus en plus. Dans ce journal également, Port-Soudan, une nouvelle fois visé par des tirs de drones ce matin, alors qu'hier, les autorités soudanaises ont rompu leurs relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis, accusés de soutenir les paramilitaires des forces de soutien rapide. La République démocratique du Congo, on vous expliquera ce qui se passe à Ibi, à moins de 150 km de Kinshasa, où des miliciens se sont installés. Le Tchad également, avec le début du procès de l'ancien chef de cabinet du président Idriss Youssouf Boy, accusé d'escroquerie et de détournement de fonds. Et l'actualité au-delà du continent, avec l'escalade meurtrière entre l'Inde et le Pakistan, les deux puissances nucléaires voisines qui se sont mutuellement bombardées cette nuit. Toute communication avec l'extérieur sera interdite cet après-midi au Vatican. Les cardinaux veulent un isolement total pour choisir le prochain pape, successeur de François. À la tête de l'Église catholique, le conclave se tient à partir de 16h30 heure locale. Les 133 cardinaux électeurs se réunissent et de leur discussion émergera donc le nom d'un futur pape. Aujourd'hui, l'Europe est encore le continent majoritaire avec 39% de ses cardinaux. Mais l'Afrique et l'Asie ont vu leur part grimper en flèche depuis le début des années 80, un mouvement amplifié par le pape François qui a décentré l'Église vers le sud. Alors aujourd'hui, quel est le poids des Africains dans ce conclave? Envoyé spécial à Rome pour RFI, Véronique Guémard.
17 cardinaux africains vont participer au conclave, soit 12% du collège électoral. Pourtant, l'Afrique représente 20% des catholiques dans le monde et l'Église la plus dynamique. République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Soudan du Sud ou encore Guinée ou Ghana, des figures influentes de cardinaux se sont imposées. Elles ont pesé de tout leur poids, par exemple en décembre 2023, après la déclaration Fiducia Supplicans publiée par le Vatican qui autorise la bénédiction des couples homosexuels en obtenant son exemption pour l'Afrique auprès du pape François. Celui-ci avait visité 10 pays d'Afrique et pointé les inégalités, les guerres et les prédations des ressources naturelles. Lors des congrégations générales à Rome, les cardinaux ont particulièrement tenu à témoigner de la situation dans les régions en conflit et insister sur la nécessité du dialogue avec les populations d'autres religions et d'autres cultures, tout en pointant du doigt les dangers des proliférations de sectes dans leur région. Une allusion aux églises de réveil, avec une priorité pour l'Église catholique en Afrique, porter haut et fort la voix de la paix. Véronique Guémard, Rome, RFI.
Alors après François l'Argentin, premier pape venu d'Amérique latine, se pose la question de l'identité du futur souverain pontife. Pourrait-il être africain? Pour le père Donald Zagoré, prêtre de la Société des Missions Africaines, l'origine géographique du prochain pape, elle n'est pas le point le plus important. Ce qui importe pour lui plutôt, c'est que l'Église catholique africaine renforce son rôle engagé pour la promotion de la démocratie, de la paix et de la justice sociale.
L'un des chantiers majeurs aujourd'hui, c'est vraiment que cette Église prenne toute sa place dans l'engagement prophétique, dans l'engagement, je dirais à la limite, politique. Et là, je voudrais bien m'appuyer sur l'héritage spécial que nous a laissé le pape François. On a une Église qui a besoin de peser sur l'échiquier politique, qui a besoin d'être la voix des sans-voix, de s'engager aux côtés des plus pauvres, aux côtés de toutes ces populations qui sont aujourd'hui humiliées, mutilées, que la voix de cette Église se fasse plus entendre, qu'elle soit l'avant-garde de nombreuses crises qui minent le continent, qu'elle soit la lumière pour à la fois sa population, à la fois pour tous ses politiques, pour réveiller les consciences, pour interpeller, pour aider vraiment ce continent-là à demeurer sur le chemin de la fraternité, sur le chemin de la vie, sur le chemin de la paix. Donc il y a vraiment un rôle précieux que l'Église d'Afrique doit jouer, surtout dans la pacification, dans l'apaisement de ce continent qui est tout le temps en ébullition, qui est tout le temps en tension, qui est tout le temps en guerre.
Le père Donald Zagoré, joint par Amélie Tullet, conclave qui débute donc cet après-midi à la chapelle Sixtine au Vatican. Tout le monde guettera la fumée blanche, synonyme d'élection d'un nouveau souverain pontife. Un premier tour de vote est prévu aujourd'hui, mais il est peu probable que la majorité des 2/3 des cardinaux soit atteinte dès ce soir. En attendant, direction RFI.fr pour suivre notre live et nos portraits des différents prétendants. RFI. Pas de répit à Port-Soudan ce matin comme les 3 jours précédents. Des explosions ont été entendues dans la capitale provisoire d'un Soudan en guerre depuis maintenant plus de 2 ans. Ville jusqu'alors épargnée par les combats, mais visée depuis dimanche donc par des tirs de drones attribués aux paramilitaires FSR, les hommes du général Emeti, qui sont plutôt implantés dans l'ouest du pays, alors que Port-Soudan se situe dans l'est. Ce matin, c'est la base navale qui a essuyé ces tirs après d'autres infrastructures ces derniers jours, nous explique Alexandra Branjon.
Depuis dimanche, l'aéroport, le port maritime, une base militaire, des dépôts de carburant et une centrale électrique ont été touchés par ces frappes de drones, des infrastructures militaires et civiles. Ces frappes attribuées aux paramilitaires constituent un développement inquiétant dans ce conflit, explique le chercheur soudanais Magdi El Ghizouli.
Il s'agit de détruire ce qui fonctionne toujours. Ce n'est pas juste attaquer le gouvernement, mais aussi le système de santé, d'éducation, les importations, les exportations, le commerce international, tout ce qui fait fonctionner un pays. Et ces destructions ont un effet démoralisant.
Port-Soudan est en effet stratégique, le point d'entrée maritime et aérien dans le pays. C'est par là que transitent tous les produits de consommation, y compris l'aide humanitaire. Hier, tous les vols civils au départ de l'aéroport ont d'ailleurs été suspendus et les agences des Nations Unies qui opèrent depuis Port-Soudan ont interrompu leurs activités.
Et notez qu'hier, les autorités soudanaises ont rompu leurs relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis. Le Soudan qui accuse Abu Dhabi de violer sa souveraineté en soutenant les paramilitaires des forces de soutien rapide, en leur fournissant notamment des armes, par exemple des drones. RFI 7h37 à N'Djamena, au Tchad, où c'est finalement dans une petite salle de la direction des renseignements généraux et non au tribunal de grande instance qu'hier a débuté le procès d'Idriss Youssouf Boy, ancien directeur de cabinet du président Mahamat Idriss Déby, incarcéré depuis le mois de janvier suite à une plainte déposée par un homme d'affaires pour escroquerie et détournement de fonds. Délocalisation signe que l'affaire est sensible. Correspondance de Nadia Ben Mahfoud.
Une source proche du dossier explique ce changement de dernière minute par la sensibilité du dossier, un risque de trouble à l'ordre public, mais aussi pour éviter des affrontements entre 2 familles puissantes. Fin de citation. L'affaire est particulièrement sensible. Les faits remontent à 2021. Aboud Hachim Bouder, directeur général de la société de travaux publics Hachim Business Center, HBC, accuse Idriss Youssouf Boy, alors directeur de cabinet du président Mahamat Idriss Déby, de lui avoir réclamé des versements de plus de 10 milliards de francs CFA à la demande du chef de l'État. À l'époque, l'homme d'affaires vient de décrocher plusieurs contrats d'environ 100 milliards de francs CFA avec l'État tchadien. Dès le début de l'audience, Idriss Youssouf Boy rejette ces accusations. Il reconnaît néanmoins avoir emprunté 1 milliard de francs CFA au plaignant au nom de la société Tchad Service, mais n'y avoir demandé ou empoché les chèques et les virements. Selon les avocats des parties civiles, plusieurs témoins affirment avoir entendu Idriss Youssouf Boy déclarer avoir touché environ 9 milliards de francs CFA de la part d'Aboud Hicham Bouder. 8 témoins sont convoqués par la Cour. Ce mercredi, Idriss Youssouf Boy, lui, ne comparaîtra pas libre lors de cette 2e journée. Sa demande de liberté provisoire a été rejetée. Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, RFI.
Que se passe-t-il à Ibi, en République démocratique du Congo, sur le plateau des Bateke? C'est à moins de 150 km de Kinshasa, une zone où sont installés des miliciens Mobondo, issus d'un conflit communautaire un peu plus au nord dans la province du Maïdombé ces dernières années. Aujourd'hui, ils font régner un climat de terreur, s'en prennent aux installations agricoles et imposent même des taxes, et cela malgré un cessez-le-feu conclu à la mi-mars et malgré également une opération militaire qui n'a pas mis fin à leur expansion. Précision et explication avec Passion Ligaudy.
Dans la zone de Ibi, à l'est de Kinshasa, les témoignages sont concordants. Une colonne armée a récemment fait irruption dans plusieurs villages. Un jeune abatteur de bois y a été tué à la machette, son corps ensuite brûlé il y a une semaine. Un autre homme, employé journalier pour l'ONG locale Akadek, a été grièvement blessé. Dans cette zone, les champs sont abandonnés, les villages désertés, les familles en fuite. Selon plusieurs sources, les miliciens Mobondo occupent désormais certaines maisons abandonnées qu'ils utilisent comme base logistique. Ils exploitent les bois, acacias, eucalyptus, sapins et autres essences locales pour produire du charbon de bois, une marchandise ensuite écoulée à Kinshasa. Cette activité, toujours selon les mêmes sources, serait facilitée par des complicités, même au sein de l'armée, notamment parmi des militaires basés en Bankana. Les recettes serviraient à financer l'achat des vivres et des matériels. Le même mode opératoire est appliqué lors des pillages. Bétail, groupes électrogènes et panneaux solaires sont systématiquement emportés des fermes locales. Autre activité lucrative, l'imposition des taxes. En Kinsélé, par exemple, un village situé à la frontière entre les territoires des Kwamout et la commune de Maluku, les miliciens Mobondo, présents depuis quelques jours, perçoivent désormais des redevances auprès des camionneurs notamment.
À l'actualité en Centrafrique, le chef rebelle Armel Sayo, qui est désormais entre les mains des autorités de Bangui, extradé depuis le Cameroun, 4 mois après son arrestation. Cet ancien ministre centrafricain, signataire de plusieurs accords de paix, avait repris les armes l'an passé en menaçant de renverser le régime en place à Bangui. Il a finalement été acheminé donc vers la Centrafrique hier par un avion spécial, Rolf-Steve Domielleux.
C'est dans la nuit de lundi à mardi que l'avion transportant le chef rebelle Armel Sayo a atterri à l'aéroport de Bangui. Remis aux autorités centrafricaines, il a été auditionné à la direction générale de la police avant d'être placé en détention à la prison militaire du camp de Rou selon une source policière. Certains de ses proches contactés affirment que son transfert à Bangui relève d'un complot diplomatique piloté par les alliés russes. Un collectif d'avocats poursuit la même source et en train d'être mis en place pour organiser sa défense. Le porte-parole du gouvernement Maxime Balalou a prévu une conférence de presse ce mercredi à 10h de Bangui pour dévoiler la position du gouvernement sur cette affaire. En juillet 2023, alors que le gouvernement s'apprêtait à organiser un référendum constitutionnel rejeté par l'opposition, Armel Sayo avait appelé le peuple centrafricain à la résistance tout en menaçant de renverser l'ordre constitutionnel avec ses troupes. Un mandat d'arrêt international avait été délivré. Activement recherché pendant des mois, c'est finalement en janvier dernier qu'il a été arrêté à l'aéroport de Douala alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol à destination de la France. Rolf-Steve Domialeux, Bangui, RFI.
Enfin, de nouvelles tensions en Afrique du Sud au sein du gouvernement de coalition. Cette équipe en place depuis près d'un an, installée à l'issue des élections qui ont vu l'ANC perdre pour la première fois sa majorité absolue. Depuis, il faut négocier et composer avec des partenaires qui sont parfois en désaccord. C'est le cas en ce moment de la DIE, l'Alliance démocratique, le deuxième parti le plus important du gouvernement sud-africain, opposé à une loi de discrimination positive. La DIE qui a même porté plainte hier devant la justice sud-africaine. À Johannesburg, correspondance de Claire Bargelès.
C'est une loi appliquée depuis janvier et qui permet à la ministre du Travail de déterminer des quotas à atteindre dans certains secteurs pour assurer de la diversité à différents postes au sein de compagnies qui ont des contrats avec l'État. Une mesure pour redresser les torts de l'apartheid, alors que le président Cyril Ramaphosa souligne que la majorité des postes de pouvoir dans les entreprises privées sont toujours occupés par des hommes blancs. Mais pour l'Alliance démocratique, cette loi est anticonstitutionnelle et elle risque de bloquer la croissance et décourager les investissements. La formation de droite libérale, qui souffre d'une image de parti de blanc, bien que son électorat se soit élargi, a toujours critiqué les lois de discrimination positive mises en place dans le pays, argumentant qu'elles ne profitent qu'à une petite élite. On voit donc apparaître une nouvelle fissure qui vient fragiliser un peu plus la coalition d'unité nationale, puisque la DA s'est déjà opposée à une loi sur l'éducation passée par l'ANC, ainsi qu'à la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée, qui a dû être abandonnée par le ministre de l'économie après un long bras de fer. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
À Johannesburg, en Afrique du Sud, où il est maintenant 8h44. Et vous êtes avec Andréane Mellard pour la suite des RFI Matin.